Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le Carnet de région, le magazine collaboratif des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon, dont la présentation et la réalisation pour le mois de décembre est assurée par Radio Escapade. Cette semaine, peu de radios ont proposé de sujets, donc on ira exclusivement à Montpellier avec deux sujets. Le premier proposé par Radio Aviva à propos de la reprise de la librairie Sorams qui pose question. Et pour le second, RCF Magellan Hérault vous proposera d'aller dans les coulisses des tramways de la TAM. La librairie indépendante Sorams, qui fête ses 70 ans d'existence à Montpellier cette année, risque prochainement de changer de propriétaire. Deux candidats sont actuellement en lice, deux libraires indépendants, l'un basé à Rouen, l'autre à Rodez. Jean-Marie Sevestre, actuel président directeur général.
Ah ben ce sont deux libraires indépendants. De toute façon, nous ne cherchons que des libraires indépendants. Nous n'aurions pas voulu que ce soit une chaîne, nous n'aurions pas voulu que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui ait une lubie de s'acheter une librairie sans fondement. Il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui comprenne ce qu'est la librairie indépendante aujourd'hui et qui, de ce fait, reste. Et bon, les deux personnes en question sont des gens qui ont des librairies eux-mêmes et qui savent ce que c'est, quoi.
En cause des difficultés financières que subit le groupe Sorams depuis plusieurs années. Un déficit qui s'aggrave, notamment pour la librairie Sorams située au Triangle, au centre-ville de Montpellier.
Le centre-ville, comme tous les centres-villes en France, a un vrai problème de renouvellement et de s'adapter au monde actuel. Je crois que ça ne sert à rien de dire c'est à cause d'eux. Il faut que le commerce vive de façon moderne. Et ce bâtiment a bientôt 40 ans, donc je veux dire, vous le voyez vous-même, et on ne peut pas tout extérieurement, quoi que ce soit. C'est la copropriété qui doit s'en occuper et qui ne veut pas. Mais je les comprends. Hein, ça coûte plus de 2 millions, les travaux qui sont à faire.
Les 140 salariés sont forcément concernés par cette reprise, mais leur avenir reste flou.
Alors, je ne peux pas dire ce que feront nos successeurs. Ça, je veux dire, je sais qu'ils sont en plein accord avec nous sur la façon dont nous travaillons, la façon dont notre personnel est réparti entre les différents services. Je crois que chacun voit midi à sa porte, hein, et il y a peut-être des services qu'ils ne voudront plus avoir. Hein, ça peut exister, ce que de supprimer tel ou tel service. Il y a de toute façon des gens dans l'entreprise qui se sont manifestés pour partir, parce qu'ils veulent changer aussi de métier. Bon, voilà. Au cours des dernières années, on a un peu licencié, si on a licencié en 2012, je ne dis pas un peu, puisqu'il s'agissait de 7 personnes. Ensuite, il y a des départs qui se font naturellement dans les entreprises, donc ils n'ont pas tous été remplacés. Et aujourd'hui, je le dis, vraiment affirme, je veux dire, Odyssée est au taquet. Je veux dire, on ne peut pas enlever du personnel à Odyssée. Odyssée ne fonctionne pas. Sur une surface comme celle-là, les heures d'ouverture, ce n'est pas possible. Le Triangle, c'est pareil.
D'ici la fin du mois de décembre, le choix du repreneur devrait être fait avec l'objectif de céder, si possible, l'entreprise début avril. Affaire à suivre donc. C'était un sujet d'Erehari Souming de Radio Aviva. Après la gare et l'aéroport, c'est au tour de la TAM d'ouvrir ses portes en partenariat avec l'Office de tourisme de Montpellier. Elle propose une visite guidée de ses ateliers de remisage à la Mausson, d'habitude inaccessible. La visite du centre d'exploitation et de maintenance des hirondelles nous est proposée par Alice Berthias de RCF Magellan Hérault.
Bienvenue dans l'hôpital des tramways. Ici, on retape les 55 rames de la ligne 1 et 3. C'est une partie de l'histoire industrielle de Montpellier. Céline Dupin est guide conférencière à l'Office de tourisme.
Le centre qu'on visite aujourd'hui, il existe depuis 2000, c'est-à-dire il a été créé pour la maintenance de la ligne 1 de tramway qui donc a été inaugurée en 2000.
Cette visite a un objectif.
Permettre aux gens qui empruntent le tramway de pouvoir comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, de comprendre comment les rames sont préparées, nettoyées, voilà, la maintenance.
Dans l'atelier, des monstres de près de 50 tonnes attendent. Mais qu'est-ce qu'on leur fait ? Damien Varenne est responsable de la maintenance du matériel roulant au département des hirondelles.
On y fait un peu de tout. On leur fait des visites planifiées pendant lesquelles on change des organes, on nettoie, on répare. On fait des dépannages sur l'ensemble des équipements d'une rame. Et puis on y fait des grosses révisions où là, on remet en état complètement des organes.
Avec un rendement conséquent.
En journée, on peut avoir jusqu'à 4-5 rames d'immobilisés pour des travaux. Et puis après, la nuit, on vient y traiter les autres signalements et d'autres visites préventives que l'on ne pourrait pas faire en journée parce que les véhicules sont en ligne.
Serge Fage est directeur de production du centre d'exploitation et de maintenance. Ici, presque 700 salariés travaillent sur les tramways.
Les conducteurs, 80 personnes qui travaillent dans les ateliers, une équipe chargée de la régulation et de l'encadrement sur le terrain, les équipes chargées de la sécurisation et du contrôle, plus quelques ingénieurs.
Des métiers peu connus, mais sans eux, les 268 000 utilisateurs quotidiens du tram seraient bien embêtés.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et voici un sujet de dernière minute reçu en plein montage qui s'invite dans le carnet de région. C'est pour cela que vous n'avez pas entendu son annonce au sommaire. Radio Intervalle se fait l'écho de l'installation du nouveau conseil d'administration du parc national des Cévennes. Un sujet de Daniel Giraud pour Radio Intervalle.
Préfet de la Lozère, Hervé Malherbe, commissaire du gouvernement auprès du Parc national des Cévennes, a réuni le 6 décembre dernier le nouveau conseil d'administration de l'établissement public pour sa séance d'installation. À cette occasion, président et vice-président ont donc été choisis pour les 6 prochaines années. Vous entendrez tour à tour Henri Couder, maire de Cans et Cévennes et premier vice-président de la communauté de communes de Florac-Lozère, qui a été reconduit en tant que président du conseil d'administration à la majorité absolue pour les 6 prochaines années. S'en suivra Roland Canaillet, président de la communauté de communes du Pays Viganais, et Jean-Pierre Allier, président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, qui ont été aussi réélus respectivement premier et second vice-président.
Bien voilà, donc Henri Couder, je suis donc maire de la commune nouvelle de Caen et Cévennes, une commune qui est toute proche de Florac. Et aujourd'hui, nous installions le conseil d'administration du Parc national des Cévennes, où j'ai été élu président de ce conseil d'administration pour une durée un peu plus longue, puisque il y a déjà 9 mois, nous avions été élus donc avec Roland Canaillet, premier vice-président, et Jean-Pierre Allier, deuxième vice-président, à ce conseil d'administration. Après, c'était une fin de mandature. Nous avons attendu le décret qu'a signé la ministre, Mme Ségolène Royal, donc qui aujourd'hui est en action. Donc aujourd'hui, mise en place du nouveau conseil d'administration pour une durée normale de mandat de 6 ans.
Moi, Roland Canaillet, je suis côté gardois, donc je suis président de la communauté des communes du Pays Viganais. J'ai été élu avec l'équipe, avec Henri et Jean-Pierre. Donc on considérait qu'on avait fait quand même du bon travail parce qu'on a rencontré toutes les communautés de communes et puis le résultat était quand même là, des communes ont adhéré. Moi je suis ravi de mon côté parce que notre communauté des communes, toutes les communes ont signé la charte. Donc je suis ravi et je pense qu'on avait un mandat qui a été un peu court et que là, bon, ce mandat un peu plus long, on pourra faire beaucoup de choses ensemble pour ce parc national des Cévennes. Parce que bon, c'est quand même quelque chose dans notre territoire, le parc national. Maintenant, depuis, on a dit pratiquement 50 ans hein, que c'est un outil important pour le territoire.
Jean-Pierre Allier, je suis le président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère. Et en fait, nous, notre volonté, effectivement, quand on s'est mis à cette équipe, c'était effectivement que le gruyère que représentait le parc des Cévennes devienne une grosse tâche et qui permette d'avoir une politique cohérente sur ce territoire. Et là, on est en train d'y arriver puisqu'il y a 13 communes qui ont adhéré, dont de nombreuses importantes en surface et en enjeu. Et nous, l'objectif, c'est qu'effectivement, ce territoire, qui est un territoire d'avenir, puisse être valorisé avec l'image du parc, avec l'esprit parc, avec toutes les conventions qui ont été faites sur non aux pesticides, sur toutes les politiques qui sont menées et qu'effectivement on puisse aboutir à un territoire attractif pour toute la population locale, mais aussi pour les gens qui veulent venir de l'extérieur dans le tourisme et autres. Voilà.
Et déjà la première ambition, c'est de pouvoir être en phase avec le territoire. Car on peut avoir toutes les bonnes idées de la terre, si nous ne sommes pas en phase avec le territoire, ça ne servira à rien. Il faut que nous soyons plus clairs, que nous ayons plus de transparence avec le territoire, que nous ayons plus de partenariats, soyons plus en mutualisation que ce que nous faisons actuellement, parce que tout simplement, nous ne sommes plus dans un une époque de vaches grasses et qu'il faut absolument que nous nous mettions tous ensemble pour réussir et faire vivre notre pays. Ça, c'est une grande ambition au niveau du conseil d'administration, parce qu'il faut que ce territoire, comme vient de le dire Jean-Pierre, se rende compte de l'importance du parc national des Cévennes et du bien que fait ce parc national sur le territoire. Et ce que j'ai dit aussi dans ma profession de foi tout à l'heure, c'est que il faut que nous soyons clairs, que nous expliquions nos missions, mais si jamais nous nous trompons, il faut aussi que nous soyons clairs et que nous le disions. Il faut que les gens soient des partenaires, qu'on arrête ces fantasmes collectifs de dire « quand quelque chose ne va pas, tout, c'est la faute du parc ». Si c'est la faute du parc, on le reconnaît. Si ce n'est pas la faute du parc, on s'en explique. Mais il faut que les missions du parc, au niveau du territoire et de tous nos partenaires, soient très claires. Le brassage d'idées, la discussion entre personnes qui ne sont pas du même avis, et heureusement, puisque si on était tous du même avis, on s'embêterait rapidement. Donc si on n'est pas tout à fait du même avis, même contrairement à même des avis complètement contraires, eh bien tant mieux, au moins on essaye, bien entendu, dans un élan raisonnable, sans violence, de pouvoir discuter. Et c'est de cette discussion que sortira la solution, et c'est comme ça qu'on pourra avancer ensemble.
Peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis le début, le parc est ressenti comme une série d'interdictions. En réalité, quand on s'aperçoit que les interdictions, elles viennent de la loi sur l'eau, d'un certain nombre de lois autres, mais que le parc est là plus pour être un facilitateur de décision, pour évoluer sur l'éducation à l'environnement, pour évoluer vers une meilleure qualité des bâtiments, une meilleure qualité des espaces publics, etc. Et donc nous, notre rôle, c'est de montrer que non, ce n'est pas une interdiction, mais oui, c'est une incitation à faire plus beau, plus joli, avec des financements des financements du parc. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement de changer cette image qui était... Alors, les chasseurs disent, mais en fait, la chasse est totalement autorisée dans le parc, avec même des plans de chasse qui sont considérables. L'agriculture, elle est favorisée par des plans, par exemple, de l'agropastoralisme, avec notamment tout est fait pour que les transhumants puissent revenir sur le Mont Lozère, sur le Mont Aigoual, etc. Tout est fait pour que les agriculteurs puissent avoir des aides pour améliorer, pour passer en bio, des choses comme ça. Donc en fait, il faut arriver à sortir de cette stratégie où le parc serait un chapelet d'interdiction pour en arriver à un parc qui est effectivement un facilitateur de l'économie locale, des murs en pierre sèche construits, et qu'on arrive effectivement à cet objectif de montrer qu'il est là justement pour défendre ce territoire et non pas pour le mettre sous cloche.
Merci à vous toutes et tous d'avoir été à l'écoute de ce carnet de région. Une édition très courte cette semaine puisque peu de sujets avaient été proposés par les radios. Merci à celles qui ont participé. Vous retrouverez le carnet de région dès la première semaine de janvier. Pour ce mois de décembre, il était présenté par l'équipe de Radio Escapade. Je vous souhaite une très belle fin d'année et de belles fêtes. Et surtout, portez-vous bien.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héro,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.